Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette émission aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de la lutte contre le VIH-SIDA chez les jeunes et les adolescents. Nous avons dans ce studio Madame Isabelle Lambunga, elle est responsable du volet communautaire à Médecins Sans Frontières. Madame Isabelle Lambunga, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Elle n'est pas seule, nous avons également Dr Chico Amsini, médecin traitant au centre hospitalier de Cabinda. Dr Chico, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission pour parler du VIH-SIDA chez les jeunes et les ados. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez au 099-706-9941, 099-706-9941. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder ces thèmes. Nous allons parler des mécanismes d'identification des victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité. Ce sera avec Monsieur Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, qui est le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre l'humanité. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Eh oui, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. Bien, nous allons aujourd'hui, c'est la journée internationale des luttes contre le VIH-SIDA. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en parler avec nos invités. Eh bien, nous allons nous focaliser surtout sur la jeunesse, les ados, comment lutter contre le VIH chez les jeunes, les adolescents. Vous savez, en RDC, les adolescents et les jeunes constituent le groupe le plus touché par le VIH-SIDA. Et par les grossesses non désirées, selon les experts. Beaucoup d'entre eux ont des comportements à risque. Ils s'adonnent très tôt aux relations sexuelles avec des multiples partenaires. Ce qui augmente les risques de contracter le VIH-SIDA. Par ailleurs, d'autres ne veulent pas aller se faire dépister et préfèrent vivre dans l'ignorance de leur état sérologique. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes du taux de prévalence élevée du VIH-SIDA parmi les jeunes et les ados, et quelles sont les stratégies des luttes? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui dans cette émission avec nos invités. Docteur Chico Amsini, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes médecin traitant au centre hospitalier de Cabinda, ici à Kinshasa, qui est géré par MSF. Alors, ma première question est de savoir quel état des lieux vous faites aujourd'hui du VIH-SIDA dans notre pays. On sait qu'à un moment, le Covid avait raflé la vedette. On parlait plus du VIH-SIDA. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la maladie?
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, depuis ces dernières années, l'état de la maladie au niveau du pays, il y a quand même une certaine amélioration de certains indicateurs. On nous dit que, selon les estimations du PNLS, nous avons un peu plus de 500 000 personnes touchées par le VIH-SIDA, parmi lesquelles 82% sont déjà mis sous ARV, avec une suppression de la charge virale qui reste quand même assez faible de 40%. Effectivement, c'est bien par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre les objectifs des 3,95 fixés par les Nations Unies, par l'ONU-SIDA. Mm-hmm. Il y a des efforts à faire. Et beaucoup
3,95, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que 95% des patients qui sont connus VIH devraient être mis sous ARV. Et on devrait d'abord dépister 95% des patients qui sont VIH connus, et de ces 95%, 95 devraient être mis sous ARV et à l'issue de cette mise sous ARV, que 95% aient supprimé leur charge virale. Donc, si on essaie de voir cette tendance, nous sommes à 85% de ceux qui connaissent leur statut sérologique, 82% de ceux qui sont mis sous ARV et 40% de ceux qui ont supprimé la charge virale. Mmh. Donc, il y a encore des gaps à relever et certains objectifs à continuer à atteindre.
Mmh. Et qu'est-ce que MSF fait dans la prise en charge du VIH-SIDA en RDC et particulièrement ici à Kinshasa?
Effectivement, en RDC, si nous prenons pour Kinshasa, MSF a deux volets, un double volet. Le premier volet, c'est le centre hospitalier Kabinda où nous travaillons, qui est un hôpital 100% MSF avec des staffs formés pour prendre en charge des patients vivant avec le VIH en ambulatoire et au stade avancé en hospitalisation. Et cela se fait gratuitement. En dehors de cette prise en charge médicale, il y a une prise en charge psychosociale et éducative qui est faite par nos conseillers, parce que le VIH, c'est une pathologie à vie. Le traitement est à vie. Il faut une certaine éducation thérapeutique pour ces patients. Ils doivent savoir pourquoi ils prennent des médicaments, quand les prendre, en cas d'IO, pourquoi prendre tel traitement, pourquoi ne pas prendre. Mais il y a aussi certains qui sont déprimés, ils ont besoin d'une prise en charge de la dépression, mais aussi
psychologique.
Un soutien psychologique qui va avec. Ça, c'est du côté centre hospitalier Kabinda, mais on a aussi un volet décentralisation. Le volet décentralisation est né du fait qu'au moment où il y a aujourd'hui plus de 20 ans ouvert le centre de traitement ambulatoire de Kabinda, qui est devenu le centre hospitalier avec la prise en charge hospitalière, on a eu un débordement des patients qui venaient chercher à accéder aux ARV. Et ce débordement des patients, on avait des patients qui venaient de presque partout. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller vers eux, aller dans les structures d'où ils viennent, parce que nous sommes une structure tertiaire, on ne reçoit que des patients qui nous sont référés. C'est comme ça qu'on a, depuis plus de 10 ans, nous sommes partis dans des structures gouvernementales et confessionnelles, pour former les prestataires des soins et prendre aussi gratuitement en charge ces patients qui nous viennent de partout. Donc ça, c'est du côté Kinshasa. Et dans le volet décentralisation, on a aussi un volet communautaire que je laisserai à ma collègue pouvoir expliquer.
Bien, bien sûr. Madame Isabelle, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes responsable du volet communautaire à Médecins Sans Frontières. Alors, du côté communautaire, qu'est-ce que vous faites comme activité?
Ok, du côté communautaire, on est vraiment beaucoup dans la sensibilisation, donc l'information, parce qu'on a compris aussi que pour réussir en matière de lutte contre le VIH, il faut beaucoup impliquer la communauté. Alors nous allons, nous informons, nous sensibilisons la communauté sur le VIH, sur la prévention, sur les signes de danger, mais nous travaillons aussi avec des associations. Et parmi nos associations, nous avons des associations composées uniquement de personnes vivant avec le VIH. Et ces associations aussi participent à la lutte en encadrant les jeunes patients VIH positifs. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait dans la communauté. Et puis, nous faisons aussi le lien entre la communauté et les centres de santé. On propose aussi les tests. On aide aussi pour référer les personnes VIH positives de la communauté vers les structures de santé.
Donc vous avez toute une équipe et vous faites souvent des descentes sur le terrain.
Oui, effectivement, nous avons une grande équipe, mais nous travaillons aussi avec des associations parce qu'il faut plus impliquer les gens qui sont concernés par le problème et nous, on vient en appui. Mais c'est une grosse équipe et on travaille souvent avec aussi les relais communautaires des zones de santé où nous intervenons.
Et quelles sont vos cibles? Lorsque vous descendez sur terrain, quelles sont vos cibles?
Voilà. De manière générale, on peut dire que c'est la population générale, mais on fait aussi un focus un peu plus sur les jeunes. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les adolescents et aussi la population clé. Et dans notre cible, on a aussi les jeunes et ados qui sont VIH positifs.
Et généralement, vous descendez, vous allez où? Dans les écoles ou bien vous faites des descentes dans les églises? Comment ça se passe? Quels sont les cadres où vous allez souvent pour mobiliser au niveau de la communauté?
Merci, je crois que vous avez donné déjà une partie de la réponse. On est beaucoup dans les églises, on est dans des écoles, on est dans des associations. Donc en fait, c'est partout où on peut trouver des jeunes à qui on peut faire passer un message de sensibilisation, de prévention et surtout un message de dépistage.
Alors parlez-nous, donnez-nous l'exemple de la toute dernière des centres que vous avez eu à organiser. C'était où et comment ça s'est passé?
La toute dernière descente, c'était Habillé, là, puisqu'on est beaucoup focus Habillé, là, et c'était une association. On peut parler d'un atelier qui encadre les jeunes filles, les filles mères, et on a proposé des tests de dépistage, mais avant, on a d'abord sensibilisé.
Habillé, là, c'est où?
Dans la zone de santé, dans la commune de Kimbanseke. Donc, c'est une zone de santé située dans la commune de Kimbanseke. Voilà, on a d'abord apporté une information. En fait, ce sont des échanges. Hein. On fait vraiment des groupes
vous
de
parole. Vous avez réuni les jeunes dans une salle quelque part?
On a réuni, mais on ne les déplace pas. On va là où ils sont censés être, par exemple, dans leurs ateliers. Ou si c'est dans une école, on va directement à l'école. Donc, on ne les sort pas de leur milieu de travail. Et là, on organise des groupes de parole et on partage par rapport au VIH. Vraiment, c'est très interactif. Et on finit par proposer le test pour les majeurs, bien sûr. Car on sait que par rapport au test de dépistage, il y a aussi la loi qui est là. Un mineur ne peut pas se faire dépister sans l'accord des parents sous réserve de certaines conditions.
Bien, on va accueillir un auditeur, un premier auditeur qui nous appelle des Kananga, Gédéon. Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oh, bonjour monsieur, je dis bonjour à tous nos invités à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA?
Oui monsieur, je dis, vous savez, c'est chaque 1er décembre que le monde entier célèbre la journée mondiale de la lutte contre le VIH/SIDA. C'est dans le cadre des manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cette journée commémore vraiment les victimes des maladies liées au VIH/SIDA. Selon les statistiques, vraiment, si vous regardez, j'ai fait les statistiques depuis 2018 jusqu'à l'année 2021. Vous allez constater, en République démocratique du Congo, il y a eu plus de 450 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA. C'est-à-dire le nombre de nouvelles infections parmi une population et au cours d'une période donnée était de 0,21%, toutes tranches d'âge confondues. Si on revient encore sur l'année 2021, selon les statistiques de PNMNS, la République démocratique du Congo compte plus de 84.
Roger Marcel, oui, nos invités, non. Le médecin l'a dit tout à l'heure. Alors, quelle est la question? Quelle est la question que vous adressez à l'invité? Merci. C'est quoi la question, rapidement?
Je dois aller à la question, monsieur Joly. Ouais. Je pense que cette journée-ci a été vraiment confiée pour les communautés. On sait bien comment, dans l'intérieur du pays, comment les moyens de transport posent un peu...
Roger, quelle est la question? Quelle est la question?
Je demande à madame, quand ils sont vraiment à l'intérieur, ils utilisent vraiment quels moyens vraiment pour se déplacer et puis ils font comment pour participer partout pour sensibiliser. Parce que si on regarde vraiment dans notre pays où des routes posent un peu des problèmes, aujourd'hui...
Merci beaucoup à Roger Marcel de Kinshasa pour votre préoccupation. Bien, madame Isabelle, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ok, d'abord notre projet, le projet dont on parle maintenant, c'est le projet VIH ici à Kinshasa. Oui, on reconnaît qu'il y a vraiment des difficultés d'accessibilité des routes, mais les équipes sont très flexibles. On utilise la moto et parfois même des grandes distances à pied pour atteindre nos cibles. Et comme je le disais précédemment, on travaille avec les communautés locales aussi. Donc en fait, les relais communautaires sont des personnes qui habitent dans ces endroits qui peuvent être difficilement accessibles, pardon, et ceux-là sont à même de joindre ou d'atteindre toutes les personnes parce qu'ils ont la maîtrise de leur contexte géographique. Voilà.
Bien, je reviens à vous, docteur Chico Amsini. Alors, une autre question de savoir, quels sont les défis auxquels vous faites face dans la prise en charge des enfants qui sont positifs au VIH?
Les défis sont assez nombreux. Vous savez que la plupart de ces enfants qui sont positifs sont soit des orphelins et qui ont un tuteur, au fait, qui, par moment, n'est pas un membre de leur famille. Donc, il nous faut faire beaucoup de travail d'éducation thérapeutique pour ces enfants pour que leur prise en charge soit optimale. Ils doivent aujourd'hui prendre des ARV pendant toute leur vie. Et plus on est jeune, moins on comprend. Alors, nos équipes psychosociales et éducatives font vraiment un travail assez poussé pour essayer déjà de préparer l'enfant à le responsabiliser, mais aussi son accompagnant, son tuteur, lui montrer les bien fondés de prendre des ARV. Lui montrer la plus-value de venir à l'hôpital pour ses rendez-vous médicaux et au cas où il a une infection opportuniste, de bien pouvoir le soigner.
Mmh. Et généralement, comment ces enfants attrapent le VIH?
Les modes de contamination du VIH sont tous connus, hein, par la généralité de la population. Et chez les enfants, la première cause, ça peut être une infection qui est materno-transmise. Un enfant qui naît d'une mère séropositive, qui ne prenait pas bien ses ARV, naît avec le VIH, mais aussi à l'issue d'une transfusion sanguine qui est avec un sang qui n'a pas été contrôlé, l'enfant peut se contaminer. En troisième lieu, on peut parler aussi des objets tranchants qui se trouvent...
Mais généralement, pour les jeunes et les ados, ils attrapent le VIH par les rapports sexuels.
Oui, les jeunes et les ados, il y a deux cas. On peut naître avec, on grandit avec. Et dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui s'expose de façon clandestine, sans se protéger du VIH et qui attrape le VIH et qui se retrouve entre nos mains. Et tantôt, ma collègue a parlé de ça, de la loi qui empêche, au fait, de dépister les adolescents, les mineurs de se dépister.
Les moins de 18 ans.
Tout à fait. C'est vraiment une grosse barrière parce que ça ne nous permet pas de dépister tôt des jeunes qui clandestinement...
Qui sont déjà sexuellement actifs.
Qui sont clandestinement sexuellement actifs, qui s'exposent, mais sans pour autant avoir ce courage-là d'aller se faire dépister. Or, s'ils se contaminent tôt avec cette activité sexuelle accrue pendant cette période, c'est-à-dire que on essaye de contaminer beaucoup d'autres personnes sans le savoir, mais aussi on s'expose à arriver à un stade avancé de la maladie à VIH et qui est une partie où le patient arrive avec des complications et tout.
Et qu'est-ce qui fait que les jeunes sont plus exposés au VIH-Sida?
C'est déjà ça, ils se dépistent tard, il y a ces comportements assez juvéniles, hein, le goût de faire des rapports sexuels tôt, on est en train de grandir, il y a la pauvreté. On parlait tantôt de la zone de santé des billets, là où pour les prochaines années, MSF verra vraiment un focus dans cette zone de santé, l'appui communautaire, où il y a la sensibilisation, mais aussi un hôpital qui est déjà appuyé avec quelques centres de santé pour mieux faire la prise en charge. On sensibilisera, on fera les dépistages et on prendra en charge.
Est-ce que pour le cas des jeunes, la télévision, les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, ce sont des facteurs?
Ce sont des facteurs. Aujourd'hui, tout, c'est l'heure des réseaux sociaux et les ados et jeunes sont plus accros à cela. Ils y apprennent beaucoup plus de choses que par moment, nous, à cet âge-là.
Ils accèdent aux sites pornographiques.
Ils regardent toutes ces choses. Vous vous rappellerez les derniers scandales qui ont eu lieu dans différentes écoles avec ces séries de sextapes. Vous voyez déjà à quel âge les enfants se jettent dans ces pratiques. Et à cet âge-là, ils savent faire le rapport sexuel, mais ils ne se sont jamais fait dépister. Imaginez-vous que l'un d'entre eux soit positif, quels seront les drames par après. Aujourd'hui, on continue à conscientiser les jeunes, mais on espère aussi que la loi un jour suivra pour qu'on autorise aux jeunes de se faire dépister. Et pour ça, le dépistage, déjà, c'est la première étape dans la lutte contre le VIH.
Bien, on va accueillir deux autres auditeurs. Omar Kigalo de Kinshasa et Tito, il va préciser la ville tout à l'heure. Omar Kigalo, vous êtes à Kin, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, bonjour aux invités.
Quelle est votre question?
Oui, premièrement, je voudrais savoir si les invités impliquent aussi dans leur combat la promotion de la loi du 14 décembre 2014, cette loi qui porte protection des personnes avec VIH. Parce qu'on s'est rendu compte, dès lors une personne est reconnue comme telle, elle est presque délaissée. Et cette loi a innové, notamment en parlant de la prise en charge sociale. Ces personnes doivent être prises en charge même médicalement. Lorsqu'on fait la cohérence entre la loi et les réalités sur le terrain, beaucoup se plaignent. Donc c'est une occasion pour moi d'interpeller le ministère de la Santé pour dire, au-delà du travail que font les ONG, l'État a les devoirs de soutenir socialement et médicalement ces personnes. Mais il y a encore des innovations. On a érigé en infraction toute discrimination d'une personne atteinte dans les milieux professionnels et dans les milieux scolaires. C'est une réalité aujourd'hui. Qui peut vouloir accepter avec une personne atteinte? Mais la loi interdit cela. Donc, son statut sérologique n'est pas une cause de révocation ou de suppression du contrat. Donc, c'est une innovation que la loi a apportée. Il y a aussi un fait, la transmission délibérée du VIH. Il y a des personnes qui savent qu'ils sont atteintes ou qu'elles sont atteintes, qui s'évertuent sans foi ni loi à distribuer les virus aux autres. On a connu beaucoup de cas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. Mais si de telles personnes existent, il faut les dénoncer. C'est maintenant érigé en infraction les personnes qui sont atteintes et qui distribuent chez les autres de manière délibérée. C'était ça ma contribution par rapport à la loi, si puis aussi faire la promotion. Mais dernière question, très cher Jody, on a vu un cas qui nous dépasse, je ne sais pas si les experts peuvent nous dire, une femme a été atteinte, mais son mari est allé à l'hôpital, le mari n'avait pas le VIH. Est-ce un cas exceptionnel? Est-ce un miracle de Dieu? Ou c'est prouvé scientifiquement? La femme est atteinte, ils vivent ensemble, l'enfant n'a pas le VIH, l'homme non plus n'a pas le VIH, il continue à vivre, ça fait 4 ans aujourd'hui. Est-ce un miracle de Dieu? Est-ce un cas exceptionnel? Ou ça peut s'éprouver scientifiquement? Voilà ma question et ma contribution d'ordre juridique que vous avez à donner à l'émission. Merci beaucoup.
Bien, merci maître pour votre intervention. On va accueillir notre auditeur, Tito Katemboa de Nganda Jika. Tito, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup de plus de m'avoir accordé la parole. Assez concernant un peu le VIH-Sida. Alors, c'est une maladie très dangereuse. Et encore, c'est une maladie qui attrape un peu tout le monde. Maintenant, c'est que j'avais un peu l'avis de vous de donner comme une suggestion, c'est-à-dire une maladie contagieuse. Alors, c'est une maladie qui contamine presque tout le monde. Maintenant, nous avons un peu quelques moyens. Donc, le maladie-là se transmet. C'est-à-dire, la maladie-là, donc, les personnes peuvent y avoir en utilisant les objets tranchants à travers le moustique et de plus, maintenant, en pratiquant directement encore le rapport sexuel. Maintenant, c'est-à-dire que c'est une maladie très dangereuse. Il faut directement encore sensibiliser surtout les jeunes. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons tellement surtout les jeunes, donc ils sont tellement contaminés par cette maladie-là. Maintenant, il faut d'abord sensibiliser les jeunes, maintenant de ne plus encore jouer avec les objets tranchants, et encore, et donner, donc, surtout dans le moustiquaire, et de plus, et ne plus encore utiliser les objets tranchants. Donc, si nous prodiguons un peu des conseils, surtout aux jeunes, je crois que peut-être on peut directement vous combattre maintenant cette maladie.
Bien, merci d'avoir appelé. Madame Isabelle, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Bon, prodiguer des conseils aux jeunes, c'est vraiment l'un des objectifs principaux du volet communautaire. Comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup, beaucoup vraiment avec des jeunes. Et là, on parle de la transmission, de la prévention, et je répète encore, et on propose aussi le test de dépistage. En fait, on leur montre quelle est l'importance de se faire dépister tout en étant en bonne santé pour ne pas éviter d'arriver à un stade où quand même la maladie est avancée. C'est vrai aussi que concernant le VIH, on travaille beaucoup aussi avec les associations parce qu'on n'est pas à même de toucher toute la capitale et même tout le pays. Mais ce qu'on peut faire déjà, c'est capaciter aussi des associations qui, à leur tour aussi, pourront aller vers la cible jeune et pour transmettre aussi le même message que le nôtre.
C'est la stratégie des pères éducateurs.
Oui, et la stratégie aussi des pères éducateurs que nous utilisons vraiment beaucoup, surtout avec les clubs d'adhérence pour jeunes patients VIH.
Voilà. Docteur, il y a une autre question de Maître Omar. Qu'est-ce que vous pouvez... Allez-y.
Effectivement, je réponds la question de Maître Omar. En fait, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est question. Effectivement, il existe ce qu'on appelle des couples discordants. Un couple dans lequel un partenaire est positif et un autre est négatif. Il suffit seulement que le partenaire positif prenne bien ses antirétroviraux, qu'il supprime, qu'il annule sa charge virale jusqu'à devenir indétectable. Il ne transmettra pas le VIH ni à son partenaire, ni à l'enfant s'il veut avoir un enfant. Donc le partenaire est aussi pris en charge d'une certaine manière. Ils sont cibles d'un traitement qu'on appelle PrEP, une prophylaxie pré-expositionnelle, pour que le partenaire reste séronégatif. Et l'enfant, on peut le protéger. On a toute une équipe et ça sera aussi mis en place dans notre appui habillé là, de la PTME, prévention de la transmission de la mère à l'enfant. Une femme enceinte séropositive prend bien ses ARV, rend sa charge virale indétectable, il transmettra pas le VIH ni à son époux ni à son enfant. Mais j'allais aussi rebondir sur sa question de la loi qui protège les personnes vivant avec le VIH. Effectivement, cette loi, on en parle, on collabore avec beaucoup d'associations de société civile. Et tout ce qu'il a dit, je suis vraiment content qu'il connaisse ça. C'est une très bonne chose. Les difficultés du gouvernement, c'est vrai, c'est parmi aussi certains challenges qu'a le gouvernement a pour la prise en charge du VIH. Parce qu'en gros, la prise en charge du VIH est faite par les partenaires, les bailleurs internationaux. Et le gouvernement a un fonds de contrepartie qu'il doit devoir verser. Je m'excuse pour accompagner cette lutte. Et depuis quelques années, le PNLS nous a rassuré que petit à petit, on débloquait de l'argent. Bien que ça n'atteigne pas le quota souhaité, mais nous sommes quand même contents que le gouvernement essaye de faire ses efforts, les efforts dans ce sens-là. Et on espère aussi que la promotion de cette loi suivra. Il y a M. Tito de Ngandajika qui est revenu sur la moustiquaire qu'il fallait protéger. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il a dit que le moustiquaire transmettait le VIH ou le moustique? Les voies de transmission du VIH sont connues. On a les rapports sexuels qui ne sont pas protégés.
Les objets tranchants.
La voie sanguine de la mère et à l'enfant.
Pas par les moustiques, hein?
Non, pas par les moustiques ni par le moustiquaire. Donc je voulais rebondir sur ça pour que cela ne fasse pas objet de confusion.
On va accueillir Augustin Dianda depuis Kananga. Nous parlons de la lutte contre le VIH-Sida, particulièrement chez les jeunes et les adolescents. Augustin, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la radio Rapi.
Quelle est votre préoccupation?
Nous vous remercions tout d'abord pour le développement de ce sujet. Le VIH, c'est un virus qui montre bien des morts. La lutte, je dirais, donc l'Organisation mondiale de la santé et certaines associations sanitaires doivent impliquer un système d'instruction à la population pour se prévenir de cette maladie. C'est-à-dire, l'OMS et certaines associations, comme je l'ai déjà annoncé, doivent quand même envoyer certains partenaires dans des centres de santé, dans des hôpitaux, pour instruire la population, surtout celle qui est locale, comment utiliser certains produits qui doivent, certaines méthodes qui doivent leur donner à des populations. Alors, on se demande, cette maladie a été découverte il y a au moins 40 ans, mais pourquoi jusque-là, toutes les organisations sanitaires ne trouvent pas de solutions durables, des solutions qui peuvent mettre fin. Jusque-là, surtout dans notre pays, hein, si vous êtes contaminé par cette maladie, en premier lieu, ça fait honte, ce n'est pas utile de le dire aux gens, et vous voyez qu'en ce temps, cette maladie peut quand même beaucoup plus battre les records sur les humains. voilà un peu mon point de vue. Je suis Augustin Nganda depuis la ville de Kananga.
Merci beaucoup, Augustin. Madame Isabelle.
Bon, j'aimerais plutôt commencer par sa dernière observation par rapport à la perception de la maladie. Il a dit que la maladie fait honte, que c'est pas éthique. Voilà, de plus en plus on parle de l'engagement communautaire, donc tout le monde doit s'y mettre. Et la communauté, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. La communauté s'y met en ayant aussi les bonnes informations, en divulguant les bonnes informations et en étant proche aussi des personnes VIH positives. En fait, toute cette perception par rapport à la maladie est liée au fait que les gens n'ont pas la bonne information. On ne sait pas que c'est une maladie. Au jour d'aujourd'hui, on peut bien vivre tout en étant VIH positif et on peut faire tout ce que les autres font. Avec les adolescents, les jeunes, on leur dit qu'ils peuvent aller à l'école, ils peuvent se marier. Donc cet aspect honte-là, c'est vraiment quelque chose contre lequel toute la communauté doit lutter.
La stigmatisation,
si on veut atteindre un objectif de génération sans VIH, il faut s'y mettre tous, s'informer, avoir les bons réflexes par rapport aux personnes qui sont VIH positives. Bon, pour ce qui est de la première partie, je crois que Chico sera un peu plus à l'aise, mon collègue le médecin, pour y répondre.
Docteur Chico.
Oui. M. Augustin est revenu sur beaucoup de choses, le rôle du gouvernement, la sensibilisation là où il se trouve, mais aussi trouver une solution, parce que ça date de plus de 40 ans. J'ai aimé que ma collègue a parlé de la stigmatisation que court ce genre de réaction, dire avoir honte. Le VIH est aujourd'hui une pathologie comme toutes les autres, avec un traitement qui existe. C'est vrai qu'il ne guérit pas. On n'est pas totalement guéri du VIH, mais on mène une vie saine si on prend bien ses médicaments. Quand on supprime, on annule sa charge virale, on vit normalement avec une espérance de vie qui reste la même. Beaucoup d'efforts ont déjà été fournis. J'aime qu'ils disent que ça fait 40 ans aujourd'hui, mais ça fera 36 ans que la première molécule antirétrovirale avait été découverte. Et après ça, plusieurs autres molécules sont arrivées jusqu'à celle qu'on a aujourd'hui. On a une trithérapie qui est efficace, qui rend la charge virale indétectable dans les 3 mois avec ce qui te permettra de mieux vivre et tout. Et c'est comme ça qu'on continue toujours à sensibiliser les gens à venir se faire dépister. Parce que plus tôt on se dépiste, tôt on commence le traitement, mieux on mène une vie et une vie de qualité. Donc les espoirs sont encore permis, les recherches sont en train d'être avancées. En Occident, il y a un traitement injectable maintenant, avec un principe d'action à libération lente. Donc les espoirs sont encore là. C'est pas totalement perdu, parce que quand il y a déjà un comprimé qu'on prend par jour et qui allonge l'espérance de vie, c'est déjà mieux que rien.
Bien, comment lutter contre le VIH-SIDA chez les jeunes, les ados? On en parle dans cette émission au Capi Service. Des questions et préoccupations, composez le 099-706-9941.
Radio Capi à la Maison de l'Entrepreneuriat de Kinshasa avec Au Capi Service. Rendez-vous ce mercredi 6 décembre des 11h à 13h pour une émission spéciale avec 1000 entrepreneurs, parmi lesquels les jeunes, les femmes, les responsables d'incubateurs des startups, les PME ainsi que les porteurs des projets innovants. Au menu, quelles sont les stratégies des créations des millionnaires et milliardaires congolais? Radio Capi avec les entrepreneurs. C'est pour ce mercredi 6 décembre à la Maison de l'Entrepreneuriat, première rue Limetefuna. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. L'entrée est gratuite. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Comment lutter contre le VIH-SIDA chez les jeunes, chez les ados? Nous avons un message de Ouezo Luaboshi Lucien depuis Bukavu. Il dit « Ma préoccupation est de savoir quelles sont les mesures que les invités utilisent pour sensibiliser les jeunes en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA. » Madame Isabelle, comment vous faites pour sensibiliser davantage les jeunes?
Bon, déjà, quand on arrive dans une zone de santé ou dans une commune, on essaie d'identifier le plus d'endroits possibles où on peut retrouver des jeunes. Donc, on fait vraiment une analyse du contexte et là, on peut identifier les écoles, les églises. Dans les églises, on cible beaucoup plus aussi les groupes de jeunes. Mmh. On sait que dans toutes les confessions religieuses, il y a des groupes de jeunes. Et bon, ensuite, on planifie, on fait des plannings et on descend.
Il y a également les associations des
oui,
jeunes.
Oui, les associations de jeunes. Ça peut être des ateliers, ça peut être même des garages. Donc, à tout endroit, on est susceptible de rencontrer un groupe de jeunes. Mmh. Nous y allons. On négocie, on fait un planning et puis on y va.
Mais actuellement, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous les suivez aussi là-bas?
Bon, dans les réseaux sociaux, c'est vrai que MSF a déjà fait plusieurs campagnes digitales par rapport au VIH. Et c'était souvent à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le VIH. Bon, cette année, on n'a pas fait spécifiquement une campagne digitale. Mmh. Mais j'aimerais aussi rajouter, parce que quand on parle des jeunes, il y a aussi les jeunes qui sont déjà VIH positifs. Et eux aussi, on les cible parce qu'ils sont tenus aussi de se prévenir pour ne pas infecter les autres et pour vivre aussi longtemps avec le virus. Et ceux-là, on peut les atteindre à travers nos clubs d'adhérence ou encore à travers des groupes de support qui se réunissent spécifiquement dans les structures de santé qui font de la prise en charge VIH.
Et on parle aussi souvent des clubs des jeunes. De quoi s'agit-il, Madame Isabelle?
Voilà, merci. Les clubs de jeunes, c'est un modèle de soins.
Un instant, il y a un auditeur, on va l'accueillir et puis je reviens. Vous, Maître Gaston de Kinshasa, bonjour.
Bonjour,
Jody. Quelle est votre question, Maître?
Bon, j'ai dit, apparemment, cette maladie avait disparu, hein, mais je vois ça réapparaître.
Ça réapparaît. Qu'est-ce qui vous fait dire que la maladie avait disparu à cause de Covid?
Non, non, écoutez, mon cher. Normalement, je pense que tous les diagnostics qui se faisaient pendant la période que vous avez fait allusion là, tous les médecins ne parlaient que de la Covid. Et pourtant, j'imagine mal que pendant cette période, il n'y avait pas eu de contaminés ou ça, des gens qui devraient être testés positifs aussi dans cette. Vous voyez? Et puis, vous voyez, les diagnostics. C'est là tous les problèmes, parce que apparemment toutes les maladies s'apparentaient à la maladie qui vient de disparaître là. Et je me pose aussi une question, est-ce qu'un jour le sida pouvait aussi disparaître? Parce que la Covid, vous avez entendu, la plaie qu'avait cette maladie, même la dangerosité de la maladie, même la maladie a pris fin. Et il n'y a même pas un jour, retenu mondialement comme on l'a fait avec... d'abord, préoccupation. Mmh. Pourquoi ne pas aussi retenir un jour comme on l'a toujours fait avec SIDA pour la COVID qui avait maté SIDA? Et puis, deuxièmement, pour la SIDA comme COVID, il n'y a pas de médicaments qui sont jusque-là suicidés, mis en vie. Mais nous comprenons que quand vous êtes contaminé de la COVID, ça peut prendre, mais SIDA, ça reste à vie. Qu'on nous propose parfois la sensibilisation qu'on va faire, parce que qu'on nous propose quoi? On nous propose quoi? Est-ce que c'est une maladie éternelle ou ça peut aussi... Mais pour terminer un peu, pardon, excusez-moi, je voulais aussi que l'invité un peu puisse nous préciser, parce que vous savez, on dit que cette maladie ici se transmet par la voie, surtout la voie sexuelle. Et vous savez, cette pratique ici de la sexualité, ce sont les mineurs qui sont censés les faire, c'est pas les mineurs, mais les jeunes. Et dans d'autres pays, on sait que les gens sont très actifs sexuellement et tombent difficilement malades. Nous, d'ailleurs, vous savez, la sexualité est médiocre et deuxièmement, on nous contraint avec de telles pratiques. Vous ne voyez pas que c'est encore nuire ceux qui sont censés croître sur le plan de leur vie sexuelle. Ce n'est pas cette manière-là qui n'est pas... Parce que la sexualité, on n'en parle pas, mais vous n'ignorez pas les musiciens aujourd'hui. Tout ce qu'il y a comme chanson de musiciens a trait avec cette pratique-là. Et tout ce qui a trait avec l'amour, le mot que je peux dire aujourd'hui...
Ça tourne autour du sexe. Qui,
voilà, et nous qui voyons ça, tout cela, est-ce que nous allons résister devant
Les tentations. Bien, merci. Merci beaucoup, maître, maître Gaston. D'accord, merci. Ouais. Je reviens à vous, à madame Isabelle. Par rapport, vous étiez en train de parler des clubs des jeunes.
Voilà. J'ai expliqué que les clubs de jeunes, c'est, sont des modèles de prise en charge des jeunes patients VIH positifs, gérés par les jeunes eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, ce sont, ils sont les acteurs. C'est un modèle qui a été initié par Médecins Sans Frontières en 2019, en collaboration avec une association Jeunesse Espoir. Et dans ces clubs, on retrouve les jeunes âgés de 15 à 25 ans, infectés par le VIH. Mais le but de ce club, c'est vraiment pour faciliter l'accès au traitement ARV. Mais dans ces clubs, plusieurs activités y sont menées, dont la dispensation des ARV. Mmh. On fait de l'éducation au traitement. On fait du partage d'expériences aussi. Donc les jeunes qui sont un peu plus à l'aise avec leur sérologie n'hésitent pas à en parler pour encourager les autres.
Les autres, oui.
Et on fait, les jeunes font spontanément aussi de la recherche de leurs pères qui ne répondent pas au rendez-vous.
D'accord. On va accueillir Madame Claudia avant que Docteur Chico réponde aux questions de l'auditeur, du maître Gaston. On me fait signe que Madame Claudia n'est plus en ligne. Alors, quelqu'un dit, il faut avoir un modèle, il faut prendre les méthodes des pays qui ont réussi à réduire sensiblement la prévalence et l'incidence du VIH-SIDA. Un commentaire d'un internaute. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces intervenants, docteur?
Ok, je commence par maître Gaston. Bon, il est parti dans tous les sens. Mais ce que je comprends dans sa question, c'est qu'il aimerait voir comment se protéger par rapport à tout ce qu'il voit à la télé et tout et tout.
Toutes les sollicitations,
jeunes, voilà. En fait, tout tourne autour des mécanismes de prévention, en fait, du VIH. D'abord, moi, je conseillerais aux gens de se dépister. C'est le premier volet. Quand tu te dépistes, tu es séronégatif, tu vas appliquer une méthodologie de protection. Si tu es positif, tu prendras les ARV parce que les ARV aussi pourrait protéger, te protéger, mais protéger aussi ton environnement. Mmh. Ça, c'est la première étape. Avoir des rapports sexuels. Protéger, avoir, être fidèle, avoir un seul partenaire.
Protéger avec les préservatifs.
Les préservatifs.
Mais certains parents ne sont pas d'accord. Ils disent que quand on parle de la sexualité aux jeunes, on leur dit d'utiliser les préservatifs. C'est une façon de les encourager, les pousser à une vie sexuelle.
Pas du tout, parce que ce que les parents peut-être ne savent pas, c'est que beaucoup des jeunes sont déjà actifs sexuellement sans qu'eux ne soient nécessairement informés. C'est un peu comme la bonne nouvelle, il faudrait le dire, parce que ça permet aux enfants d'avoir un regard ouvert, savoir que si je vais dans cette déviation, il y a des moyens pour me protéger et ne pas revenir demain avec une maladie qui probablement mettra mal à l'aise. Moi-même, je ne serai plus en bonne santé et ça risquera de perturber peut-être mon avenir si je ne prenais pas les médicaments. Donc il y a le préservatif, mais il y a aussi les antirétroviraux qui est un mode de prévention aujourd'hui. Si par exemple il arrivait que par malheur on sorte avec un partenaire dont on ne connaît pas la sérologie et que c'est quelqu'un qui est à risque, on peut vous mettre sous une prophylaxie de 28 jours pour prévenir le VIH. Et cela se fait même pour nous qui sommes exposés. Chaque jour en hospitalisation, il nous arrive de nous piquer, d'avoir des éclaboussures de liquides biologiques potentiellement contagieux. Mmh. On se met sous cette prophylaxie et jusque là, le taux de réussite est de 100%. Personne ne s'est contaminé par des injections et tout. Donc, c'est aussi un moyen de prévention que nous pourrons lui proposer. Il y a un autre auditeur qui a dit qu'il fallait qu'on essaye de voir qu'est-ce qui a marché ailleurs, essayer d'adopter. Mmh. Au fait, au niveau mondial, les standards aujourd'hui sont les mêmes. Ce qui a marché, c'est qu'il faut que les gens viennent se faire dépister. On vous a montré le gap qu'il y a, les gens ne viennent pas, on continue à sensibiliser. Si on est positif, on prend les ARV. Si on prend bien les ARV, on rend la charge virale indétectable, donc on ne contamine plus. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on risque, qu'on va vers la génération sans sida. Mmh. Et ça, je peux rebondir à la question de maître Gaston. Est-ce que ça peut disparaître? Il faut aller d'abord vers la génération sans sida, des enfants qui naissent sans le VIH. Et ceux qui seront positifs resteront positifs. mais avec une charge indétectable, ils ne transmettront pas le VIH, donc on pourra réussir à maîtriser l'infection.
Mmh. Oui, Madame Isabelle.
Je voudrais un peu rebondir sur ce que mon collègue, le docteur, a dit. En fait, quand on va parler avec les jeunes, on insiste beaucoup sur la sexualité responsable. Autant dans les écoles, bon, dans les églises, c'est un peu plus délicat parce qu'il faut, ça dépend aussi de la conception d'une confession à l'autre, mais on essaye toujours de négocier. Là où on nous permet, on parle clairement du préservatif et on montre même comment utiliser le préservatif.
Bien, il y a une réaction d'un internaute. Ce sujet est très pertinent car le VIH-Sida est devenu trop fréquent chez les jeunes. Selon nous, il faut prévoir des séances d'éducation populaire à l'issue desquelles les jeunes seront outillés sur les modes de prévention. C'est le sociologue Gédéon Chiboaboa depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Docteur Chico, votre réaction?
Nous appuyons ça. Et depuis un certain moment, MSF le fait de façon assez plus lors des campagnes et tout, pour essayer de voir lors des JMS comme ça, pour essayer de voir l'impact que ça a. Continuons à parler du VIH parce que par moment, comme quelqu'un l'a dit, on pense que avec l'avènement de Covid, le VIH a disparu. Non, le VIH est toujours là, les gens continuent à se contaminer. Mmh. On tient des campagnes pareilles lors des JMS. C'est vrai que le cadre, cette période-là est assez petite. Mais il y a beaucoup d'autres partenaires qui continuent les sensibilisations. Et dans notre volet communautaire maintenant, Maman Isabelle l'a dit ici tantôt, on va vraiment vers les clubs de jeunes, vers les associations des jeunes, vers les églises, vers les différents regroupements pour essayer de parler de cette thématique qui est assez pertinente et assez importante.
Docteur Chico, même pendant la période de Covid, à l'hôpital de Kabinda, la fréquentation des malades était toujours...
La COVID
très soutenue.
Malheureusement, la fréquentation avait été réduite parce que la plupart de nos patients, par exemple, viennent avec un tableau respiratoire et la COVID simulait aussi ce tableau. Beaucoup avaient refusé de se faire dépister. Il fallait beaucoup de stratégies pour réussir à les dépister. Et malheureusement, on nous a amené ces patients comme à portée mort. Ils décédaient à domicile et on les a amenés pour qu'on constate les décès. Mmh. Quand on pose la question sur la symptomatologie, c'était plus respiratoire. Mais en hospitalisation, on a eu aussi des cas positifs à la COVID. Et cette comorbidité a eu une incidence assez désagréable sur la mortalité des patients liés avec le VIH.
Bien, une autre question, est-ce que le VIH-Sida se transmet par la sorcellerie ou par la piqûre des moustiques? Docteur Chico.
Non, malheureusement. Donc, je vais peut-être revenir sur ça, sur les différents modes de transmission. Mmh. La voie sexuelle, lorsqu'on n'est pas protégé, la voie sanguine, transfusion, objet tranchant, transfusion avec du sang qui n'est pas testé préalablement, et de la mère à l'enfant. Ce sont les trois voies qui sont reconnues. Et aujourd'hui, avec l'appui communautaire, on continue à sensibiliser pour que les gens ne viennent vraiment pas avec ces genres de discours, dire que c'est par la sorcellerie, etc., etc. Mmh. Parce que ça aura une implication sur la prise du traitement. Quand quelqu'un se dit qu'il a été envoûté, qu'il a, par la sorcellerie, qu'il a eu le VIH, donc il ira chercher une réponse spirituelle et non médicamenteuse. Nous donnerons les médicaments, il ne prendra pas et il ira chez son pasteur, chez son prêtre pour essayer d'en guérir. Et malheureusement, on ne récupère pas beaucoup de gens. Il y a, je pense, 2-3 ans, MSF a essayé de faire une campagne avec la communauté pour avoir la sensibilisation des grands leaders religieux, de 4 grandes confessions religieuses. Et pendant la JMS, cette sensibilisation avait été faite. On a eu le cardinal pour l'église catholique, le révérend, je pense, Bokondoa pour l'église protestante. Il y avait un imam représentant de l'église islamique. Et pour les églises de réveil, il y avait le pasteur Roland Dallot qui a aussi passé un message très clair sur les voies de transmission du VIH et les raisons, si on est positif, qu'on vient de se faire soigner, pour essayer un peu de balayer cet argument-là.
Bien, je suis jeune et j'ai le VIH. Pourrais-je me marier et avoir des enfants sans VIH, Madame Isabelle?
oui, hein, totalement. Il peut se marier. On l'a expliqué tout au long de l'interview que quand on prend bien son traitement ARV, en fin de compte, on a une charge virale qui est indétectable et ça permet à ce jeune de se marier, d'avoir une vie normale. Et aussi, c'est un droit qui est reconnu par la Constitution. Ils ont droit au mariage, ils ont droit aussi à la maternité.
Et ils peuvent avoir des enfants sans VIH-SIDA.
Avec une bonne PTME, en fait, la personne enceinte qui suit sa consultation CPN, mais dans un centre de santé où il y a le programme de PTME, elle est suivie correctement du début de la grossesse à l'accouchement, accouche sans que l'enfant ne soit positif.
Docteur Chikon.
Oui, effectivement, comme l'a dit ma collègue, c'est vraiment ça. Et par moments, les gens n'y croient pas jusqu'à voir la réalité. Je me rappelle qu'il y a un patient, un ami qu'on suivait, et qui était dans ce tableau-là. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très engagé dans la lutte contre le VIH. Il n'y croyait pas jusqu'à ce que sa femme ait un enfant. Je continue à voir le stress qu'il avait tout au long de cette période de prophylaxie. Il devrait appeler tout moment qu'on lui cherche des médicaments et tout. Mais au finish, après 18 mois, son enfant est négatif et c'est une joie pour ce couple-là. Mmh. Donc ce sont vraiment des choses, par moments, les gens n'y croient pas. Mais ce sont des choses que nous, on vit et on vit chaque
jour. Il suffit de bien suivre les traitements, la charge...
La charge virale devient indétectable et la génération sans sida est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de challenges, comme on a dit, l'accès aux intrants de la PTME au niveau du pays. Le Congo, c'est un pays continent. Il y a des endroits où l'accessibilité est très difficile. Il y a un ami de Kananga qui a dit ça, qui posait la question à la communauté. L'accessibilité à certains endroits est difficile. L'accès aux intrants de dépistage boite quand même par moment même la délivrance des ARV. Ce sont autant de challenges que le pays a. Mais il faudra se battre pour essayer de le relever parce qu'avec la PTME, vraiment la génération sans sida est possible.
Alors, quel est le thème pour cette célébration? Je m'engage avec la communauté. C'est quoi? Je vois, vous êtes habillé en t-shirt avec des messages dessus.
Oui. En fait, pour cette année-ci, l'ONU SIDA, les organisations internationales ont préféré faire un clin d'œil à la communauté. Qu'on confie le leadership à la communauté pour réussir à vaincre le VIH. Parce que comme tantôt on l'a dit, je pense que Maman Isa sera plus à l'aise d'en parler. J'épingle une ou deux choses. Aujourd'hui, nous en tant que médicaux, on peut prendre en charge le patient, on le voit à l'hôpital. Mais à l'issue de l'hôpital, il est dans sa communauté. Si dans la communauté, vous avez entendu les gens parler ici, c'est une maladie de la honte. Ça, c'est stigmatisant. Quand cette personne revient de notre hôpital, il suffit qu'il soit hospitalisé chez nous et qu'il rentre, tout le monde le regarde.
On le regarde bizarrement.
Oui, on lui dit, tu viens de là, tu souffres de quoi? Et en tant que médecin, c'est tous les jours que les gardes malades, que les membres de famille nous appellent pour savoir de quoi souffre le patient. Et c'est déjà une stigmatisation qui commence. Une personne qui vient de là ne se sentirait pas à l'aise de prendre le médicament là où les gens le regardent bizarrement.
Oui, c'est ça. Je m'engage avec ma communauté pour un monde sans VIH-SIDA.
Voilà. La communauté doit s'impliquer aujourd'hui. C'est l'engagement communautaire des domaines de prédilection de Maman Isa.
Madame Isabelle, en quelques mots rapidement pour terminer.
Voilà, je m'engage avec ma communauté. Donc ça signifie d'abord que tout le monde doit s'impliquer. Je l'ai dit tout à l'heure, nous devons tous nous y mettre et déjà commencer à avoir un comportement responsable. Un comportement responsable vis-à-vis de la prévention. Et là, on épingle un peu l'aspect préservatif, utiliser les préservatifs, se faire dépister, accompagner les personnes VIH positives, ne pas les stigmatiser et ne pas les discriminer.
Bien. Madame Isabelle Ambunga, merci. Elle est chargée du volet communautaire à Médecins sans frontières. Nous disons aussi merci à Dr Chiko Amsini, médecin traitant au centre hospitalier des Kabinda. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Merci.